franceinter.fr.
C'est l'heure du journal. Voici Laurence Thomas. Bonsoir Laurence.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. La fermeture à la circulation des voies sur berge à Paris, annulée par le tribunal administratif. L'affaire n'est pas terminée pour autant. Anne Hidalgo, la maire de Paris, annonce à l'instant qu'elle fait appel. Attention si vous devez prendre l'avion demain au départ de Paris. De fortes perturbations sont à prévoir. Pas plus d'un vol sur deux. La politique avec le projet de loi asile et immigration. À l'étranger, au Mali, la mort de deux soldats de l'armée française tués par l'explosion d'une mine artisanale. La jeunesse américaine met la pression sur Donald Trump après la tuerie de Parkland. Des jeunes rescapés sont à Tallahassee, capitale de la Floride, pour essayer d'arracher un durcissement de la législation. Pendant ce temps, Donald Trump reçoit à la Maison Blanche écoliers, enseignants et victimes des fusillades passées. La météo du soleil met une vague de grand froid qui est annoncée dans les prochains jours en France. Sébastien Léas nous dira tout à la fin de ce journal. Et au téléphone sonne Pierre Veil.
La grande distribution est-elle encore adaptée à nos modes de consommation confrontés à une perte de vitesse, hein, vous le savez, de son modèle. Carrefour va supprimer des milliers de postes et opérer un virage vers le commerce en ligne. Et le bio, le format de l'hypermarché emblématique des années 60 et 70, doit se transformer. Il perd des clients de toutes parts. Pourquoi cette crise du tout sous le même toit? Quelles sont vos attentes nouvelles de consommateurs? Vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter. C'est un nouvel épisode dans la guerre des voies sur berge à Paris. Le tribunal administratif de Paris annule l'interdiction de circulation le long de la Seine rive droite. Le tribunal estime que l'étude d'impact du projet qui a servi de base à la piétonnisation des berges est en partie inexacte, insuffisant quant aux effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants et les nuisances sonores. Pour la mairie de Paris, c'est un revers sérieux, Élodie Vergelati.
Anne Hidalgo a livré un discours très combatif. La maire de Paris contre-attaque tout de suite. Elle fait appel de la décision du tribunal administratif. Hors de question de rouvrir les voies sur berge à la circulation. Nous ne laisserons pas faire cela. Il faut bâtir une ville plus respirable. C'est le sens de mon mandat et c'est un combat de longue haleine, a-t-elle déclaré. Dans le viseur d'Anne Hidalgo, l'opposition, la droite parisienne et régionale qui a saisi la justice, cette droite pour qui, je cite, la circulation automobile est plus importante que la santé des Parisiens. Car pour Anne Hidalgo, les faits sont là. Depuis la piétonnisation des voies sur berge, la pollution baisse. Et si la justice estime qu'il y a un vice de procédure dans cette décision de piétonnisation, eh bien la maire de Paris répond tout simplement « Nous prendrons un nouvel arrêté ». À l'hôtel de ville, Élodie Vergelati, France Bleu Paris, pour France Inter.
Anne Hidalgo a donc décidé de faire appel. Reste que pour Anne-Christine Lang, ancienne socialiste passée à La République En Marche, députée de Paris, la méthode Hidalgo n'a pas été la bonne, on l'écoute.
Il y a une volonté très forte de la maire de Paris d'aller vite, étant donné l'urgence climatique. Mais je pense qu'en l'occurrence, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Manifestement, ça a été un peu bâclé. Il faudra élargir à l'avenir ces concertations à la petite couronne et en dehors de Paris, de façon à mesurer l'impact en termes de circulation et de pollution pour nos voisins de l'autre côté du périph' qui évidemment sont très impactés.
Ça fait beaucoup de revers pour Madame Hidalgo à mi-mandat.
Je ne sais pas si ça fait des revers, mais effectivement, peut-être une méthode de gouvernance pas suffisamment concertée, trop de certitudes en fait, trop de convictions qu'on est forcément dans le vrai, que les autres sont systématiquement dans le faux, et peut-être une incapacité à établir la discussion avec des gens qui peuvent avoir quelques divergences de point de vue.
Des propos recueillis par Aurélien Colli. On reste à Paris où demain jeudi les transports aériens au départ de la capitale vont être fortement perturbés. 10 syndicats appellent à la grève. Air France prévoit l'annulation de la moitié de ses vols long courriers, des perturbations dues au mouvement de grève pour les salaires qui vont concerner les pilotes et également les personnels navigants et au sol, Laurent Kramer.
Oui, il faut remonter à 1993 pour trouver un mouvement de grève aussi large et aussi unitaire que le mouvement annoncé demain. La loi Diard qui permet d'aménager les plans de vol à l'avance trouve demain à Air France ses limites avec une moitié de vols long courriers annulés, un quart des moyens courriers annulés, des perturbations et des retards à prévoir également dans la journée, annonce la direction Air France. France appelle ses voyageurs à consulter en ligne dès ce soir l'état des vols, à emprunter demain. Les personnels navigants au sol et les pilotes sont main dans la main pour réclamer une augmentation salariale de 6% pour tous les personnels, car Air France vient d'annoncer un bénéfice en hausse de 42%, souligne l'intersyndicale, alors que la direction vient d'accorder dans le même temps une hausse générale de 0,6 puis 0,4%, acceptée par ailleurs par la CFDT et la CGC. Revendication salariale déraisonnable, estime le PDG d'Air France, qui ne souhaite pas ouvrir de nouvelles négociations salariales.
Laurent Kramer, à 3 jours du Salon de l'agriculture, les éleveurs sont aussi en colère. Ils redoutent l'importation chaque année en Europe de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine sans droit de douane. Alors plusieurs manifestations d'agriculteurs contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur étaient organisées dans diverses régions de France à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Illustration à Auxerre avec ce reportage de Bénédicte Robin.
3 tracteurs, un à chaque entrée du rond-point, permet de réduire la circulation à une voie et donc d'arrêter chaque voiture.
Le monde agricole, nous sommes 3 fois par jour dans votre assiette, ma petite dame.
Je suis persuadée que vous avez raison.
Mais demain, dérogation sur ce que le contenu de votre assiette.
Et le tract est clair, OGM, en masse, viande aux hormones, farines animales, ces gros mots font réagir.
Je soutiens, oui, oui, entièrement. Il faut taper fort, autrement on va bouffer de la merde.
Je suis surtout inquiète pour nos enfants. Parce qu'après, s'il faut faire des enfants malades...
Le pays de la gastronomie, voilà. On est reconnu partout et puis on va nous envahir de produits. Voilà.
C'est un double discours de l'État.
Franck est céréalier et éleveur de poulets.
On dit qu'il faut faire de la qualité en France, on en fait, les gens en veulent, mais finalement on va leur faire manger n'importe quoi. Tout ça pour vendre quelques Airbus ou un TGV, on va sacrifier l'agriculture française, c'est quand même dommage. Quoi.
Il craint d'étouffer face à des produits vendus beaucoup moins cher, et même si les automobiles mobilistes du jour sont solidaires. Les consommateurs du quotidien sont tiraillés.
Qui nous conseille de consommer français? Oui, ça paraît une évidence, mais après c'est pas évident de, lorsqu'on va faire les courses, de regarder l'étiquette. On achète surtout du prix la plupart du temps. C'est ça qui est triste. C'est nous qui créons les problèmes dans lesquels nous sommes.
Et justement, les agriculteurs craignent que ces problèmes ne fassent que se renforcer. Bénédicte Robin, France Bleu Auxerre pour France Inter.
En tout cas, ils pourront faire part de leurs inquiétudes demain au chef de l'État. Un millier d'entre eux, d'agriculteurs, seront reçus demain midi à l'Élysée. Tout est bon dans le cochon? Eh bien non. Pour obtenir le joli rose bonbon qui colore pratiquement tous les jambons, les fabricants enrichissent leurs produits d'un conservateur qui fait polémique, le sel nitrité. C'est un mélange de sel et de nitrite de sodium, l'additif E250. Autrement dit, au torchon, à l'étouffée, à la broche, le sel à outrance et sel nitrité sont souvent au rendez-vous. Et on l'a compris, ce n'est pas bon pour la santé. Jambon, saucisson, lardon, même combat pour l'OMS. Ces additifs sont cancérigènes. Et les eurodéputés ont réclamé aujourd'hui à Bruxelles leur interdiction de l'Axmilota.
Ah, nitrate de potassium.
Stop nitrite. Michel Rivasi, eurodéputé vert, colle des étiquettes stop nitrite sur des emballages de jambon industriel. Dans les rayons, les députés cherchent les ingrédients incriminés, nitrite, nitrate ou E249 à E252. Ce sont des conservateurs, Michel Rivasi.
Il y a plein d'études qui montrent que ça provoque le cancer colorectal. En plus, l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est cancérogène catégorie 1. C'est pas probablement cancérogène, c'est cancérogène catégorie 1. Mais d'autre côté, on a un énorme lobby. On a des industriels qui veulent aller vite et qui veulent se faire de l'argent le plus rapidement possible.
Ces additifs sont utilisés pour que le jambon ait un aspect plus rose ou plus rouge. Parmi les consommateurs, peu lisent les étiquettes.
Il y a beaucoup de choses qui sont cancérigènes, donc malheureusement, à la fin, on va finir par plus rien manger. Je ne fais pas attention spécialement.
Je regarde si le jambon est traité ou si c'est un jambon naturel.
Les eurodéputés demandent une audition de l'EFSA, l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire, pour qui ces substances sont peu préoccupantes pour la santé humaine. Bruxelles, Laxmilota, France Inter.
19h09, le journal Laurence Thomas. Laurence, c'est un dossier sensible pour le gouvernement, le projet de loi sur l'asile et l'immigration.
Gérard Collomb a présenté son projet de loi en Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur défend un texte aligné sur le droit européen, très en deçà, dit-il, des mesures prises par exemple en Allemagne, en Italie ou encore en Suède. Un texte qui fait des vagues jusque dans la majorité pour sa logique de fermeté et très critiqué par les associations, soutenues par des avocats, la Cour nationale du droit d'asile ou encore l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il manifestait ce matin à Paris. C'est le reportage de Benjamin Hilly.
Concert de casseroles et cris de colère devant le Conseil d'État.
La loi Collomb, on n'en veut pas.
Le personnel de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui s'inquiète de la réduction des délais d'instruction des demandes d'asile, 6 mois, c'est l'objectif imposé par le projet de loi, c'est intenable, répond Morgane.
Pour le pays de la liberté, de la liberté.
Rapporteuse à la CNDA.
On a 47 000 décisions par an, 325 dossiers par rapporteur, c'est énorme. Et on n'en peut plus. Non, non, non.
Un message partagé par les agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils sont en grève. Pour certains, c'est une première.
Parce que c'est la première fois que j'estime que le droit des demandeurs est en péril.
Christine, 17 ans à l'OFPRA.
Il faut savoir qu'une demande d'asile, c'est pas juste un dossier. C'est des êtres humains qui sont en face de nous. Et il faut les respecter.
On a honte.
Erika Koenig, avocate qui défend les demandeurs d'asile.
C'est la Convention de Genève qui est en train d'être complètement mise à mal. On parle de mur aux États-Unis. Là, c'est un mur juridique qu'on est en train d'ériger. Le droit d'asile est en train d'être tout simplement détruit.
D'où ce slogan.
Retrait de la loi Colomb.
Et la promesse de multiplier les manifestations jusqu'à obtenir satisfaction.
Le droit d'asile, c'est notre mission.
Reportage de Benjamin Illy. Les lunettes, les prothèses dentaires, l'audition, je fixe l'objectif de 100% de prise en charge d'ici à 2022, avait promis Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle. Alors la Caisse d'assurance maladie a fait ses premières propositions pour les prothèses dentaires. Parmi les pistes évoquées, elle appelle les dentistes à baisser leur prix et propose notamment un remboursement variable en fonction de la place de la dent à remplacer, mais aussi du matériau utilisé pour la prothèse. Les prothèses, c'est Véronique Julia, tout l'enjeu de cette réorganisation des soins dentaires.
L'assurance maladie propose 3 types de prothèses. D'abord la formule pas chère qui concernerait 50% du marché, c'est la formule reste à charge zéro. Ces prothèses seraient intégralement remboursées mais les matériaux utilisés seraient moins nobles, surtout si la dent n'est pas visible. Deuxième type de prothèse, la catégorie intermédiaire avec un reste à charge modéré, 40% des prothèses seraient dans ce cas. Enfin troisième catégorie, une petite minorité de ces prothèses seraient à honoraire libre, ce serait le haut de gamme de la prothèse avec là pour le coup un reste à charge élevé. Pour proposer cette offre, l'assurance maladie demande évidemment aux dentistes de faire un effort. Près de 600 millions d'euros de manque à gagner, en partie compensé par une hausse des tarifs sur les soins conservateurs. Pour l'instant, le compte n'y est pas, répond la profession, qui regrette aussi qu'on concentre le débat sur les prothèses, quand une bonne politique de prévention et de soins dentaires permettrait d'après elle de les éviter. Olivier André est président d'Agir pour la santé dentaire, c'est une association de dentistes libéraux.
En fait, on n'arrive pas à faire prendre à la France ce virage qui permettrait dans 20 ans d'avoir des générations sans caries et sans couronne. Finalement, c'est ça, normalement, ce qu'on devrait faire. Il n'y a plus de prévention, donc on n'est que dans la gestion de l'échec. Si vous venez tous les ans pendant 10 ans, vous n'aurez pas de prothèse à faire au bout de 10 ans. On va vous soigner les dents au stade de la carie. Il n'y aura pas de couronne. C'est ce changement économique qui va amener au reste à charge zéro, puisque de toute façon, au bout d'un moment, il n'y aura plus de besoin prothétique.
Les propositions de l'assurance maladie ne sont pour l'instant qu'une base de travail. On entre maintenant dans le dur des négociations, disent les syndicats. Le mois de juin est la date butoir pour trouver un accord.
Véronique Julia, tout sauf la prison. L'avocat Éric Dupond-Moretti, ténor du barreau de Paris, aura tout tenté pour assurer la défense de Jérôme Cahuzac lors de son procès en appel pour fraude fiscale. Fin des plaidoiries de la défense, l'avocat n'a pas hésité à supplier la cour de ne pas envoyer son client en prison. Il a même suggéré d'aggraver la peine en sursis, sachant que l'accusation a requis hier la peine de 3 ans de prison. Sarah Guibaudot.
Jérôme Cahuzac a reconnu avoir détenu pendant près de 20 ans un compte caché en Suisse puis à Singapour. Il reconnaît aussi le déni et le mensonge dans lesquels il s'est enfermé, mais s'il a fait appel, il l'a dit au premier jour de ce procès, c'est qu'il a peur d'aller en prison. Et sa défense s'est attachée à décrire un homme à terre, abandonné par la plupart de ses amis. Un homme qui traîne au cabinet, les secrétaires ne savent plus quoi en faire, raconte maître Éric Dupond-Moretti. Fini le chirurgien de talent, l'homme politique au travail acharné. Il reste la honte et la marque indélébile de la trahison pour maître Jean-Alain Michel. Éric Dupond-Moretti souligne que les fraudeurs du fisc n'écopent souvent que de peines d'emprisonnement avec sursis. Quand ils sont jugés, ce ne fut pas le cas de Liliane Bettencourt. L'avocat conclut Cahuzac en prison, ça ne serait pas une décision de justice. Il évoque même le risque d'un suicide en détention. Pour maître Jean-Alain Michel, l'ancien ministre n'a plus d'avenir professionnel, hormis cette proposition, paraît-il, de remplacer un médecin de campagne en Corse, se racheter quelques années encore ou être enfermé. Vous choisirez, lance-t-il à la cour, ce qui est utile et nécessaire.
Et Jérôme Cahuzac sera fixé sur son sort le 15 mai prochain. 2 soldats français de l'opération Barkhane ont été tués aujourd'hui au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale. Au passage de leur véhicule blindé, ces militaires appartenaient au 1er régiment de Safi de Valence. Quelques 4000 troupes françaises sont déployées au Sahel dans le cadre de l'opération anti-djihadiste. Le chef de l'État a salué leur courage. On écoute Emmanuel Macron.
Je voudrais avant toute chose
commencer cette conférence de presse en vous disant notre émotion et nos condoléances à l'égard des familles de nos deux militaires du 1er régiment de Spahis de Valence tués ce matin au Mali dans l'attaque à l'engin explosif improvisé de leur véhicule blindé. Nous avons en effet ce matin perdu deux soldats dans le conflit que nous menons au Sahel. Ces pertes viennent après plusieurs pertes très lourdes de plusieurs dizaines de terroristes que nous avons faites ces derniers jours. Et je veux ici témoigner à la fois aux familles et à leurs camarades le plein soutien de la nation, nos condoléances les plus vives.
Direction les États-Unis maintenant, Laurence Thomas. La colère monte là-bas contre la culture des armes.
Après la tuerie de Parkland qui a fait 17 morts, les jeunes veulent dénoncer la libre circulation des armes à feu dans le pays. Alors en attendant la grande journée de mobilisation, le 24 mars à Washington, des lycéens rescapés du massacre ont pris en bus la direction de Tallahassee, la capitale de la Floride, où un vote, Grégory Phillips, vient d'exclure un durcissement des lois locales sur les armes à feu.
Oui, les lycéens de Parkland sont maintenant rassemblés devant le Capitole local à Tallahassee, accompagnés d'enseignants, de parents et de jeunes gens venus de tout l'État. Ceux de Parkland, vous l'avez dit, ont voyagé toute la nuit en bus et ils sont là pour réclamer au gouverneur de Floride et aux élus d'interdire la possession de fusils automatiques. Le texte a été rejeté hier par les parlementaires de Floride. Parmi ces jeunes gens, il y a Alfonso Calderon, élève du lycée Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, qui vient de prendre la parole.
Please, I beg. And I demand,
s'il vous plaît, je vous en supplie, je demande à n'importe quelle personne qui a un peu de pouvoir d'agir pour faire en sorte que les enfants n'aient plus peur d'aller à l'école. Faites quelque chose. Je suis censé reprendre les cours dans moins d'une semaine, mais je ne suis pas prêt à voir ces chaises vides parce que des élèves ont perdu la vie dans ces classes. Et puis l'autre événement de la journée, ce sera ce soir à la Maison-Blanche. Donald Trump recevra des élèves et des enseignants de Parkland, mais aussi des Américains touchés par le même type de drame, Columbine en 99 ou Sandy Hook il y a 6 ans. Hier soir, le président a promis qu'il trouverait une solution pour mettre un terme à ces tueries. On a vu une très légère inflexion hier de la part de la Maison-Blanche avec une possible interdiction des bump stocks. Vous savez, ce dispositif qui permet de rendre un fusil semi-automatique encore plus rapide. La Maison-Blanche devant laquelle, en ce moment, d'autres lycéens commencent à se rassembler en ce moment pour réclamer eux aussi plus de contrôle sur les armes à feu dans ce pays.
Grégory Phillips en direct de Washington. Il aura été l'interlocuteur incontournable des présidents américains pendant plusieurs décennies, mort de l'influent prédicateur évangéliste Billy Graham à l'âge de 99 ans. Des années 40 au milieu des années 2000, il aura multiplié les prêches aux quatre coins de la planète, y compris en URSS et en Chine, et même deux fois en Corée du Nord. Direction maintenant les Jeux Olympiques de Pyeongchang et l'histoire qui peut-être en marche pour l'Autrichien Marcel Hirscher. Âgé de 28 ans, il va tenter demain dans le slalom d'égaler son compatriote Tony Seller et le Français Jean-Claude Killy, les seuls skieurs à ce jour à avoir décroché 3 médailles d'or en ski alpin lors d'une même édition des Jeux Olympiques. Hirscher, c'est 55 victoires pour 120 podiums en 210 départs. Son ratio de réussite est donc impressionnant, Franck Ballanger.
Après celle du combiné et du géant, cela ferait 3 médailles d'or pour Marcel Hirscher, comme Jean-Claude Killy en 1968 et comme son compatriote Tony Zeiler en 1956. Mais avant de penser au record, Marcel Hirscher pense déjà à se cacher. Comme souvent, le petit malin autrichien s'arrange pour déplacer la pression sur ses adversaires.
Cette course sera compliquée parce qu'il y a de vrais spécialistes du slalom. Moi, mon dernier entraînement de slalom, il remonte à loin. C'était en course à Schladming.
Sauf que désormais, tout le monde connaît les petites manœuvres de déstabilisation de Marcel Hirscher. En début de saison, par exemple, pour l'endormir un peu, il avait affirmé qu'Alexis Pinturo était le grand favori pour le classement général de la Coupe du Monde. Alors cette fois, le Français ne veut pas mordre à l'hameçon.
Vous croyez encore à ce oula, moi j'ai envie de dire. Il ne s'est pas entraîné sur le slalom. Je vous rappelle que quand même au combiné il en a fait et il s'est forcément entraîné un peu en slalom juste avant. Donc il exagère un peu. Marcel, c'est sûr que ce sera le gros client dans cette discipline.
Cette saison, il y a eu 8 slaloms de Coupe du Monde. Marcel Hirscher en a remporté 6. Quoi qu'il en dise, c'est largement suffisant pour considérer qu'il est le grand favori du slalom olympique de demain. À Pyeongchang, Richard Vivion, Franck Ballanger, France Inter.
Voilà, les Jeux Olympiques en Corée du Sud, Jeux Olympiques d'hiver, c'était la dernière page du journal de Laurence Thomas. La météo.
La météo avec Région Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous sur regionjob.com.
Et Sébastien Léas de Météo France est avec nous. Sébastien, temps encore instable sur le sud-est, mais beaucoup de soleil sur le nord-ouest.
Oui Pierre, situation encore perturbée demain en Corse avec des averses et de la neige des 500 à 800 mètres d'altitude. Temps plus calme sur les Alpes et la Provence, mais sous un ciel très nuageux. Ces nuages vont même déborder jusqu'en Ardèche et au Gard l'après-midi, mais seules les Alpes frontalières verront quelques flocons. En revanche, la journée s'annonce très agréable, des frontières du nord aux côtes de la Manche, jusqu'au Berry, au Poitou et au bassin aquitain. Le ciel sera plus changeant le long des Pyrénées et entre le sud Alsace, le Lyonnais jusqu'au massif central, avec de nombreux nuages qui laisseront quand même filtrer quelques éclaircies.
Et un vent qui nous vient de Russie et donc des températures de plus en plus fraîches, Sébastien.
Oui, vous parlez du fameux Moscou-Paris qui va progressivement se mettre en place dans les prochains jours. La baisse amorcée va se poursuivre demain et ce n'est que le début. Le froid va s'accentuer dans les prochains jours jusqu'en début de semaine prochaine, même jusqu'à la fin du mois pour être exact, avec des températures parfois glaciales. Demain matin, il fera par exemple moins de degrés à Strasbourg, au Mans, Abbeville, Dijon, Montauban ou encore Aix-en-Provence. Et la sensation de froid sera en plus augmentée par une petite bise sensible venue du secteur nord-est. Les maximales de l'après-midi seront aussi en baisse. 3 degrés à Metz, 5 degrés à Paris, Grenoble et Reims, 6 degrés pour Toulouse, Tours ou encore pour Cherbourg et 9 degrés à Nîmes et à Bastia.
Sébastien Léas, Météo France.